Bon, je commence. Si on aborde la bibliothèque d'écrivains selon le point de vue de la génétique, il faut prendre en compte la lecture et plus précisément les traces de cette lecture disséminées dans les ouvrages de la bibliothèque. Plus que d'une simple allusion ou d'une influence littéraire ou d'un travail sur l'intertextualité, qui ne suffit pas d'ignorer, bien entendu, c'est d'écriture dont il est question, puisque lire et écrire sont à ce titre indissociables quand ces deux actions se présentent sous la forme de traits en marge du texte ou par des soulignements et divers procédés mnémotechniques. Pour avoir une idée plus complète de la bibliothèque de la Pointe pendant cette période, il faut envisager également sa bibliothèque virtuelle, ou du moins une partie de celle-ci. Je vais parler des livres dont rencontre la Pointe dans son journal intime, journal rédigé de 1950 à 1956, ainsi que de textes non publiés, identifiés comme des notes, et qui sont des comptes rendus de visites d'expositions à Paris, de visionnements de films et de pièces de théâtre auxquelles il a assisté. Là, je donne une extension beaucoup plus large de la bibliothèque, disons, la bibliothèque culturelle. Ma présentation se divisera donc en trois parties. Je délimiterai le corpus des livres pour fournir ensuite un aperçu des types d'interventions dont ils sont l'objet. Je terminerai sur une vue d'ensemble de la posture de la Pointe comme lecteur critique en convoquant non seulement les traces laissées dans un échantillonnage de livres, mais également celles qu'on trouve dans son journal et dans les notes dont je vous ai parlé. Alors, la période choisie pour cette communication est celle qui va de 1950 à 1962, dont vous avez certains échantillons qui circulent. Une période que je justifie de la manière suivante. D'abord, la première acquisition date de 1950, un recueil des Luards. Ensuite, l'année 62 coïncide avec le retour définitif de la Pointe au Québec pour aller enseigner au Collège militaire royal de Saint-Jean. Ce découpage peut lui-même être divisé en deux, soit une première tranche chronologique qui va de la fin des études classiques jusqu'au départ pour la France en 1956. La seconde tranche, de 56 à 62, introduit la période française lorsque, boursier de la Société royale du Canada et détenteur d'une maîtrise de l'Université de Montréal, la Pointe entreprend des études doctorales qu'il ne mènera pas à terme, préférant se consacrer à l'écriture. Quatre recueils ont été rédigés pendant cette période, deux au Québec, deux en France. Comment se répartissent les titres de ce découpage chronologique? Parmi la centaine de titres de livres publiés entre 50 et 62, une quinzaine d'entre eux ont à coup sûr été acquis pendant la période. Ajoutons à cette liste une douzaine d'œuvres qui ne portent pas de date d'acquisition et environ le même nombre de périodiques français. Pour ces derniers, on peut présumer, simple hypothèse, que les marques de lecture sont contemporaines à peu de mois près de la date de parution des revues. Parce qu'habituellement, on achète une revue, on la lit. Il y a des chances qu'on la lise dans l'année même. À ce stade-ci, pour les livres sans date d'acquisition, je pose l'hypothèse selon laquelle l'écart serait relativement rapproché entre les livres acquis au cours de cette période et les annotations dont ils ont fait l'objet. La période des années 50 est une période d'effervescence pour Gatien Lapointe, qui en 5 ans à peine termine son cours classique, complète un baccalauréat et dépose son mémoire de maîtrise. Il rédige pendant la même période un journal où il évoque ses lectures, rédige des critiques littéraires, bref, il s'exerce à développer sa vision de la littérature. Son statut d'étudiant l'amène donc à engranger des lectures qui viennent baliser le cheminement de sa recherche, en particulier pour son mémoire de maîtrise consacré à Livard. Alors maintenant, que nous disent les traces de lecture sur les rapports que la Pointe entretenait avec les ouvrages de sa bibliothèque, autrement dit, comment lit-il, que cherche-t-il quand il lit? L'une des réponses les plus évidentes est fournie par des recherches faites à l'occasion de son mémoire, l'expérience intérieure chez Paul Éluard, ainsi que les notes accumulées en vue de sa thèse, la lumière chez Paul Éluard. Son intérêt pour Éluard, et plus largement pour la poésie associée au mouvement surréaliste, explique sans doute l'acquisition de livres comme ceux de Jacques Prévert, Marcel Bialu, ou des poètes évoluant dans l'entourage de celui-ci comme Max Jacob, René Char et Antonin Artaud. La Pointe, dans son parcours de lecture, a dû décrire un cercle plus large dans son exploration de la poétique d'Éluard, l'amenant à chercher à saisir tous les réseaux sémiotiques, dirons-nous aujourd'hui, qui liaient la poésie d'Éluard aux autres courants en vogue à son époque, y compris les courants picturaux. Considérons donc ces marques comme un type de lecture studieuse ou savante, orientée vers un objectif d'analyse. Toutefois, quand nous en faisons nous-mêmes l'expérience comme lecteurs et lectrices, le fait de choisir un objet d'analyse peut induire une lecture qui ne soit pas uniquement de nature intellectuelle, mais qui offre une plus-value sur le plan émotif ou existentiel. À tout le moins chez Lapointe, qui partage son temps entre les études et l'écriture, qui rédige un journal intime, comme je l'ai dit, la dimension existentielle est présente dans la mise en exergue de certains passages. Si avec Éluard, les deux types de lectures sont pour ainsi dire indissociables, dans certains cas, on sent qu'on entre dans un espace plus intime. Antonin Artaud, dont le nom est absent des auteurs qui reviennent souvent dans les entrevues ou les témoignages que livre Lapointe sur ses influences, et dont il possédait le premier tome des œuvres complètes, publié en 1956, apparaît plus en marge de son objet d'étude, bien que les commentaires ici et là laissent percevoir une lecture en quête d'une thèse, comme on disait à l'époque. On peut y dénoter un engagement perceptible par l'importance de la masse d'intervention, dont plusieurs semblent coïncider avec une philosophie de l'existence ou une poétique qui rappelle l'œuvre publiée de Lapointe. On lit de la main de Lapointe, dans la marge supérieure d'un texte, donner la manière d'être de sa pensée, non en tracer le geste. Une phrase qui approuve la position d'Artaud sur l'expression de la pensée de l'écrivain. Le texte intitulé « L'automate personnel », toujours de Artaud, donne lieu à un exclamatif extraordinaire. À l'encre bleue, texte d'Artaud qui confère au sexe masculin une dimension cosmologique, comme le souligne lui-même Lapointe qui en apprécie l'esthétique. En fait, le texte est une description d'une toile. Le tableau. Certains ouvrages semblent pour Lapointe se prêter davantage à une lecture intimiste, comme chez Bataille, Le bleu du ciel, Mallarmé, Propos sur la poésie, ou Saint-Exupéry, Lettre à un otage. De toute évidence, ces lectures étaient liées à une recherche de soi qui a pu déboucher sur une poétique. Sur ce plan, il est presque impossible de distinguer chez Lapointe ce qui appartient à sa vie privée, sur laquelle d'ailleurs il est relativement discret, et ce qui relève de sa poétique d'écrivain. Le livre de Saint-Exupéry, Lettre à un otage, acquis à Québec en 1953, alors que Lapointe faisait une retraite au manoir Montmorency, fait voir une réflexion rédigée à la main. Je cite, « C'est ma philosophie de vie. » Fin de la citation. Cette affirmation est provoquée par un bref passage. « Tout se polarise. » Fin de la citation. Que Lapointe a pris soin d'encadrer, un greffon qui reste cependant, bien sûr, sujet à interprétation. Le corpus contient également des périodiques français, comme la Nouvelle Revue française et les Cahiers du Sud. On perçoit un grand intérêt dans l'une des revues pour l'article « La parole prophétique » de Maurice Blanchot. Lapointe écrit comme pour lui-même en empruntant une tonalité nietzschéenne « Fais-toi une âme nomade, une âme sans attache ni lieu, afin de te créer une histoire. » Fin de la citation. Mais il est peut-être aussi opportun de préciser ce que peut recouvrir l'idée d'engagement dans une lecture. Parle-t-on de la passion du lecteur devant des passages? Passion dont il veut laisser des traces pérennes, passion qui confère à ses interventions une motivation dialogique, le dialogue avec l'auteur. Si, comme j'en ai donné des exemples, cette force d'engagement est bien présente, elle est parfois motivée par une lecture en vue d'une publication, faisant transiter cette lecture privée vers l'espace public. Ces anges de sang, dont vous voyez l'exemplaire, publié en 1955 par Fernand Ouellette, compte parmi les ouvrages dans lesquels Lapointe s'est le plus investi, crayon à la main. Les marques de lecture ont aussi servi de prise de notes en vue d'un compte-rendu critique que publiera Lapointe lui-même la même année dans la Revue dominicaine. Et quand on compare les passages mis en évidence avec le contenu de l'article, ainsi que le choix des citations, on retrouve presque mot pour mot les appréciations ainsi que les titres de poèmes jusqu'au vers qui ont retenu son attention. Les exemples que je viens de donner montrent bien qu'il s'agit tout autant de traces d'écriture que de lecture, les deux finissant par se confondre. Pour le dire autrement, si certains passages sont mis en évidence selon divers procédés de marquage, c'est qu'ils poussent à sortir d'une lecture passive pour susciter une action, un geste physique qui redouble l'acte de lecture. Mais parfois, des soulignements ou des encadrés ne suffisent pas. Il faut que cette activité ouvre un dialogue dans l'espace privé à cette fin, si on peut dire, celui de la marge qui accueille des esquisses de réflexion. Dans le cas qui nous occupe, on peut se poser la question: est-ce que nous lisons un écrivain à travers Lapointe ou est-ce plutôt Lapointe qu'on lit à travers cet écrivain? Ce qui nous amène à la question à laquelle s'intéressent les généticiens qui étudient les bibliothèques d'écrivains, quel est le lien que nous pouvons établir entre ces avant-textes et l'œuvre publiée? J'aurais aimé retrouver des bouts de vers repris par la suite dans des recueils publiés, ne serait-ce qu'avec des variantes. De ce point de vue, si j'espérais obtenir retour sur investissement de temps, ça c'est long, la cueillette a été plutôt faible. Cependant, si on ne peut dégager de corrélation évidente entre l'écriture en marge des textes et la reproduction de ces échantillons, certains d'entre eux ont motivé une intervention sous forme versifiée. Par exemple, dans Une saison d'enfer, les vers de Rimbaud que je cite, « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres », deux vers, sont réduits par Lapointe à deux vers brefs, écrits à la main, de son cru, « J'ai un goût de terre sur mes lèvres », que je n'ai pas retrouvé ailleurs ni dans ses œuvres publiées, ni dans ses inédits. Mais ces réécritures restent assez rares, du moins pour la période qui nous concerne. Avant de clore cette partie de mon exposé, j'attire votre attention sur un cas différent, unique, mais cocasse. Dans la plaquette que Louis Aragon consacre à Hugo, poète réaliste, on lit « La simplicité réaliste dans le vers, c'est précisément ce qu'il y a de plus mystérieux en poésie, de moins atteignable. » Fin de la citation. Lapointe a écrit au crayon à la mine « Merde. » Comme s'il prenait conscience qu'il avait fait fausse route, soit dans sa lecture, soit dans sa propre pratique. Élargissons la question, ce qui frappe chez Lapointe, c'est, outre la spontanéité du geste, le caractère affirmatif sans réplique de ses commentaires. Bien que l'étudiant et le poète soient en période d'apprentissage intellectuel, la relation de Lapointe avec les auteurs qu'il fréquente ne se fait pas selon la posture de l'apprenti placé devant des autorités ou des mentors. Lapointe n'éprouve aucun complexe et cherche plutôt à s'affirmer, à la fois comme critique et comme poète. S'il signale un passage, c'est pour le prolonger et développer sa propre pensée. S'il cite selon une approche plus intimiste, qui fait écho à sa propre vie, c'est parce qu'il y trouve un accord, une confirmation. Dans son journal, Lapointe manifeste son impatience devant l'attitude d'un de ses professeurs, qui ne prend pas suffisamment position, qui ne tranche pas. On peut penser que c'est probablement le père Ernest Gagnon qui a dirigé son mémoire de maîtrise à l'Université de Montréal. La pointe critique. La lecture du livre de Marc Alain, A-L-Y-N, dont il circule une copie, est révélatrice de cette approche. Non seulement la pointe souligne, écrit en marge, marque son appréciation et jette des bouts de critique pour la plupart négatives, plus encore, il a rédigé un texte suivi, qu'il a ensuite inséré dans le recueil d'Alain, et à ma connaissance jamais publié, qui comporte deux versions, l'une au stylo bleu sur des feuilles quadrillées, l'autre sur du papier brun, rédigé à la machine à écrire. Autre exemple, un recueil de Claude Fournier, auteur de Ciel fermé, publié en 1956 dans la collection Les Matineaux à l'Hexagone, qui ne comporte pas de marque, subit le même sort dans une page du journal intime de Lapointe datée du 12 juillet 1956. Cette forme de critique qui refuse la complaisance et qui montre un Lapointe sûr de lui-même atteint un sommet dans cette bibliothèque virtuelle à laquelle j'ai fait référence au début de cette communication. Il semble que Lapointe se soit fait la main vers la fin de son séjour à Paris pour composer plus de 30 comptes rendus critiques qu'il identifie comme des notes, qui pour la plupart sont en réalité des textes achevés, tapés à la machine et dont le jugement négatif, positif ou plus rarement mitigé ne laisse aucun doute. Or, l'un de ces textes intitulé « Réflexions sur la critique » semble être un scénario imaginaire d'une soutenance de thèse à laquelle aurait été conviée Lapointe, hein, il aurait été probablement convié s'il avait poursuivi sa thèse, comme s'il reproduisait mentalement sa prestation dans la salle Louis Liard de la Sorbonne. Parmi les critiques qu'il énumère, Proust, Bergson, Spinoza, Sainte-Beuve, Taine et le philosophe Alain qu'il considère être le seul critique qu'il aime. Ses réflexions sont en somme une remise en question du discours universitaire pour analyser les œuvres. Sachant que Lapointe a renoncé à sa thèse de doctorat, on peut présumer que cet exercice mental lui a peut-être fait voir que cette voie ne lui convenait plus. Je termine sur une dernière interrogation. Est-ce que ses lectures, ou une partie d'entre elles, semble avoir été déterminante dans sa poétique d'auteur? Une de ses lectures mérite d'être soulignée. Il s'agit de La poésie et nous, co-signée entre autres par Michel Van Skandel et Gilles Hénault. J'isole ces deux auteurs parce que leurs textes n'ont pas laissé Lapointe indifférent. Celui de Skandel est l'objet de nombreuses marques de réticence exprimées par des points d'interrogation ou même d'exclamation, qui sont des marques inhabituelles de Lapointe pendant la période, et qui signalent une incrédulité face aux propos de son auteur, notamment par rapport à Saint-Denis Arnaud et les automatistes, à propos desquels Van Skandel écrit « La révolte des automatistes risquait de devenir dangereuse ». Point d'interrogation ou d'exclamation à ce passage. Le texte de Gilles Hénault, au contraire, rencontre l'assentiment de Lapointe, et même si la phrase « La poésie est organique, n'est pas découpée par le crayon, elle cristallise le credo poétique de Lapointe. On trouve des passages notés qui insistent sur la différence de culture entre la française et les québécoises, comme, je cite, « Nos racines profondes sont dans notre vie à nous, et c'est pourquoi nous comprenons mal parfois les démarches des poètes français. Nous refusons de les suivre sur le terrain de leur engagement. » Fin de la citation. De manière générale, les pages où Hénault en appelle à créer, selon son expression, une vie à nous, ont manifestement reçu une totale adhésion. Or, Lapointe est à cette époque à Paris, et c'est aussi pendant ce séjour que lui-même commence à prendre ses distances face à son héritage français. Il a témoigné de cette remise en question dans une entrevue avec Donald Smith, je cite, dans la Québécoise, 78. « Au lieu de toujours essayer de traduire, je commençais à affirmer mon propre langage, et d'abord contre celui des Luards, qui m'oppressait tout en me fascinant. Je surgissais dans un temps premier, titre d'un recueil publié en France, dans mon propre temps et dans mon propre espace. Le Québec de loin, à ce moment-là, devenait ma terra nova. » Fin de la citation. On pourrait supposer que la lecture de La poésie et nous a pu soit provoquer ce sentiment, soit le confirmer, de même qu'elle a peut-être donné son élan à une poétique qui donnerait désormais priorité à l'expression d'une vie organique, d'une langue d'Amérique. Citation de l'ode au Saint-Laurent, ma langue est d'Amérique. Formulation célèbre, donc, comme je viens de le dire, de son ode au Saint-Laurent. Pour conclure, cette recherche encore en chantier pose des questions méthodologiques au centre desquelles on trouve l'idée de relation entre les découpages, d'abord relation entre le chercheur et ses archives, également entre les découpages effectués dans les livres, le bagage de la pointe lecteur et les échos qu'on trouve dans les écrits intimes ou dans l'œuvre publiés. Malgré la difficulté d'analyse et d'interprétation qui vient du fait qu'on a affaire à un écheveau de fragments et de postures, ou j'aime bien l'expression utilisée par Jacinthe qui citait Jacques Baud, d'un nœud de repère, on entend le vipère derrière, qui vient du fait qu'on a affaire à un écheveau de fragments et de postures qui parfois allient au sein d'un même passage le chercheur et le poète, ou le poète et le moi autobiographique. Malgré tout, j'espère en avoir montré le potentiel de recherche.